Europe 1. C'est arrivé demain, on continue avec vous Patrick Cohen.
Bonjour Pierre-Henri Tavoyot.
Bonjour.
Président du Collège de philosophie, professeur à la Sorbonne et à Sciences Po, auteur l'an dernier de « Comment gouverner un peuple roi ?», question toujours d'actualité en France, qui devient aujourd'hui « Comment gouverner en temps de crise ?». Comment arbitrer entre la santé, la prospérité et les libertés quand le premier impératif s'opère au détriment des deux autres? Vous avez une réponse?
C'est ça, c'est un choix politique majeur, d'ailleurs, qui offre une espèce de cartographie des possibles dans le monde. Dans nos régimes, disons, libéraux, occidentaux, de type État-providence, on privilégie la santé et les libertés, parfois au détriment de la prospérité, ça a été le choix. Dans des régimes plus autoritaires, on va considérer que la santé et la prospérité sont essentielles, et puis on peut prendre quelques libertés avec les libertés. Et puis dans les régimes qui sont plus, alors on l'appellera néolibéraux, c'est un peu le choix de Trump notamment, on va faire en sorte que la prospérité, elle, va vraiment rester en place au détriment éventuellement de la santé, en maintenant malgré tout effectivement des libertés, notamment la liberté d'entreprendre. Donc on a une belle cartographie de ce qu'on peut appeler une sorte de trilemme, c'est-à-dire un dilemme à trois solutions. Et voilà. Après, c'est dynamique, c'est-à-dire que ça engage des politiques qui vont s'inscrire dans le temps. Évidemment, on voit aujourd'hui que, notamment en France, il va quand même falloir s'occuper un tout petit peu d'économie, parce que la crise sanitaire peut-être est en train de s'achever, mais la crise économique, elle commence.
Oui, vous parlez du risque du sanitarisme. Que voulez-vous dire ?
Alors ça, c'est un point sur lequel il faut être vigilant. C'est-à-dire que d'un côté, c'est une énorme qualité de nos sociétés. C'est-à-dire que mettons la vie des gens au cœur des choses et au cœur des politiques, ce qui n'était pas le cas. On a tous en tête maintenant, c'est une référence qui a été souvent utilisée, la grippe de Hong Kong de 1968-69, ou d'une certaine façon, une grippe beaucoup plus d'ailleurs grave en termes de mortalité que celle que nous vivons actuellement. Est passé quasiment inaperçu. Aujourd'hui, on met vraiment la vie, et pas forcément la vie des jeunes, mais aussi la vie des vieux, au cœur du dispositif. Et ça, c'est plutôt intéressant et plutôt positif et plutôt un signe du fait que nos sociétés ne sont pas, comme on le dit trop souvent, focalisées sur le marché, sur le consumérisme, sur le matérialisme, etc. Mais après, il faut faire attention à une autre face de cette idée. C'est que la santé, en fait, est un concept extrêmement difficile à appréhender. La définition de l'OMS de la santé, c'est l'état de bien-être physique, mental et social. C'est quand même un concept ultra ambitieux. C'est-à-dire que moi-même, si je puis dire, je suis pas sûr d'être en parfaite santé au regard de ce critère. Donc, en fait, au nom de la santé, on peut englober tout. La vie personnelle, la vie individuelle, et donc la santé est certes un droit, ça c'est formidable, mais c'est un droit qui est un peu obscur et extrêmement vaste. Et par ailleurs, comme la société fait beaucoup pour ma santé, d'une certaine façon, ça induit que je dois faire beaucoup pour ma santé, non pas simplement pour moi, mais pour la société. Oui. Et donc, il y a une sorte de confusion et de risque que, au nom de la santé, encore une fois concept confus, les libertés individuelles puissent être mises à mal.
Oui, alors les libertés, mais pour rester sur la santé, y a un risque de rayon paralysant pour l'action politique, qui est d'ailleurs maintenant dans la Constitution, c'est le principe de précaution. Vous dites le principe de précaution, ça ne doit pas, ça ne peut pas être le risque zéro.
Oui, enfin, le principe de précaution, quand on le regarde à la lettre, est un principe qui est assez subtil. Hein. C'est un principe qui consiste à dire, voilà, on ne sait pas tout. Il peut y avoir des actions qui ont des conséquences extrêmement graves et surtout irréparables. Donc, la logique du principe de précaution, c'est ça. Ça concerne pas toute. C'est pas simplement attention, faut faire gaffe. C'est vraiment un principe qui vise des risques extrêmement bien identifiés, ou plus exactement, dont on sait qu'on les identifie mal, mais dont on peut penser qu'ils soient catastrophiques et irréparables. Aujourd'hui, ce principe de précaution, c'est vrai qu'on l'applique à n'importe quoi. C'est d'une certaine façon, la maman dit à son enfant « mets ton cache-nez au nom du principe de précaution ». Donc le truc devient complètement délirant et d'une certaine façon empêche l'action. C'est-à-dire qu'on devient synonyme de ce qu'on peut appeler le risque zéro, en effet. Et donc, comme la vie est par définition risquée, ça bloque absolument toute action et ça effectivement... fait en sorte que l'avenir, dont on voit qu'il a il y a des décisions importantes à mettre en œuvre pour le penser et pour le concevoir, on vient de l'entendre, eh bien tout ça se réduit à néant.
Quelle leçon pourra-t-on tirer de l'exercice du pouvoir dans nos démocraties et dans la nôtre en particulier après cette crise, Pierre-Henri Tavoyau?
Je pense que ça, si on regarde ça sur une séquence un peu longue, depuis les Gilets jaunes jusqu'à cette crise, ça montre la plasticité de nos institutions et leur fonctionnement, je crois, assez bon. Voilà, il n'y a pas tellement de motifs d'optimisme, gardons celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'on a eu, au moment des Gilets jaunes, une demande de démocratie qu'on appellerait horizontale ou participative, avec l'idée qu'il fallait des référendums tout le temps, etc. Dans les périodes de crise, on voit très bien que c'est au contraire un appel à l'exécutif, c'est-à-dire qu'on veut des pilotes. On veut des pilotes non pas simplement pour piloter, mais aussi pour pouvoir râler contre eux, les dégommer, les critiquer, les considérer comme mauvais. On adore en France détester nos dirigeants. Mais voilà, et donc je crois que la leçon à tirer, c'est que il faut pas trop changer nos institutions, ni en renforçant trop l'exécutif, ni en faisant en sorte qu'il y ait des procédures qui seraient extrêmement complexes et inadaptées aux périodes de crise, qui soient des procédures de démocratie participative. Je crois qu'on a un système qui a bien fonctionné. On est très loin de l'effondrement annoncé. Voilà, ça a plutôt fonctionné. Notre système de santé a tenu. Des mécanismes de solidarité extraordinaires ont été mis en place. Alors, tout n'a pas bien marché, soyons clairs. Ça, il faudra faire un bilan extrêmement précis de ce qui n'a pas fonctionné. Mais dans l'ensemble, on est très très loin de l'effondrement que l'on pouvait craindre et que certains annonçaient, d'ailleurs avec un peu de jouissance dans la voix.
Oui, mais quand même, vous entendez ce qui monte dans la société, une partie de la société contre le gouvernement. C'est apparu dès le premier jour du confinement de la part de collectifs de citoyens, de soignants. Vous aurez des comptes à rendre, oui. Il y aura des procès. Demande légitime ?
Alors, les procès, je pense pas. Les procès, ça sert strictement à rien. Et je pense que la vraie reddition de compte en démocratie n'est pas une reddition de compte qui exige des condamnations et qui exige même des accusations. Ça, c'est pas du tout le but. Il faut, en revanche, revenir scrupuleusement dans les semaines qui viennent sur l'ensemble du processus de décision et examiner ça. Non pas pour mettre des gens au pilori ou, chacun a conscience, enfin, tous les gens un peu raisonnables que décider dans cette période d'incertitude, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il faut juste être un peu honnête en se disant, si j'étais à la place d'Edouard Philippe ou d'Emmanuel Macron, est-ce que j'aurais fait mieux? Est-ce que j'aurais fait... Bon, il faut vraiment avoir cette lucidité-là. Mais en revanche, il faut effectivement regarder très scrupuleusement, et ça c'est une tâche, me semble-t-il, qui est attribuée au Parlement, ou plutôt que le Parlement doit prendre en charge, Sénat et Assemblée, pour en tirer des leçons. C'est capital, c'est se dire sur l'hôpital, pourquoi ça a pas aussi bien marché qu'on pouvait le penser, sur la gestion de crise, sur les alertes d'experts, sur la captation de signaux à l'égard des pandémies, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Donc cette reddition politique de compte, il faut la faire. Encore une fois, c'est pas une reddition simplement électorale, c'est pas une responsabilité simplement juridique ou judiciaire, mettre les gens en taule ou en procès. Vraiment, ça, sur le plan du collectif, ça sert pas à grand chose. C'est pas une question de vengeance. C'est vraiment d'étudier le mécanisme et d'en tirer des leçons.
Merci beaucoup, Pierre-Henri Tavoyau. Dernier livre paru, Comment gouverner un peuple roi, chez Odile Jacob. Merci à vous.
Merci.